Merci Yadou pour l'invité. Et
voilà, une chose à apporter.
Et merci d'être venu. J'ai entendu qu'il y a deux Suisses qui sont venus, à part Sylvain Brichet. J'espère beaucoup que vous me direz bonjour après, parce que nous sommes peu nombreux, parmi les arbres en Suisse, c'est bien de se rencontrer. Dans ce contexte, en fait, je suis venu, j'ai une formation d'ingénieur et je fais un doctorat en psychologie et je suis venu à Lausanne pour enseigner l'anatomie, un sujet que j'avais jamais appris et un peu de neurosciences que je connaissais mieux, en une langue que je ne parlais pas. Alors, c'était problématique au début, mais il peut y avoir quelques tensions entre les ingénieurs et les médecins. Et une fois, il y avait en fait une discussion entre un médecin et un ingénieur et un politicien sur la question qui a joué le rôle le plus important dans la création du monde. Et d'abord, le médecin a dit, moi j'ai joué un rôle très important, parce que pour prendre une côte de l'homme, pour en faire une femme, Dieu avait vraiment besoin d'un médecin. Ça, c'était absolument fondamental. Mais l'ingénieur a dit, oui, mais ça, c'était même pas une partie de la création du monde. Ça, c'était beaucoup après. Il fallait d'abord avoir quelqu'un pour créer la structure, créer l'ordre à partir du chaos. Après ça, le politicien a dit, oui, mais qui a créé le chaos? Alors, je me demande si je vais passer le test d'intelligence de cette chose. J'ai en fait un défi, parce que on m'a demandé de parler du sujet le chrétien. Peut-il être neutre au laboratoire? Ce matin, c'était des questions parfois un peu pratiques, mais un peu intellectuelles aussi, les questions de la pensée derrière la science. Mais ma tâche maintenant, c'est de parler un peu plus de ce qu'on va vraiment faire au labo. Et je dois peut-être expliquer que je suis chef d'une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, comme Rachel a dit, nous travaillons sur la mort neuronale. Nous essayons de bloquer la mort neuronale dans les situations d'une attaque cérébrale ou chez un bébé qui a une asphyxie à la naissance, cette sorte de choses. Et pour comprendre cela, on doit aussi comprendre ce qui se passe dans les cellules qui meurent. Donc c'est le but de notre recherche. Mais aussi, j'enseigne l'anatomie et j'enseigne la neurobiologie à différents groupes d'étudiants, les étudiants en médecine, en biologie, en psychologie, en maître de sport, à toutes sortes d'étudiants. Maintenant, l'ordinateur semble un peu au repos. Voilà. Il était tout prêt, et tout d'un coup, il s'est reposé.
C'est le temps de relaxation.
Ah, le temps de relaxation, c'est important. Hein. Je me demande si je dois dire une autre plaisanterie. Vous connaissez peut-être, mais je suis venu hier en TGV, et bien sûr c'est très bien allé, mais les gens me disent parfois, mais comment est-ce que c'est possible que les Anglais qui ont fait beaucoup de découvertes importantes, de mini-jupes, toutes sortes de choses importantes, n'ont pas pu construire un réseau de chemin de fer qui marche. Mais c'est complètement faux. En fait, les Anglais ont construit un locomotive qui allait deux fois plus vite que le TGV, mais quelqu'un a dit, mais il faut tester quand même qu'est-ce qui se passe s'il y a, si le locomotif heurte un oiseau. Alors ils ont bien réfléchi, ils ont tapé dans Google Bird Throwing Machine et ils ont trouvé à Texas une machine qui était capable de projeter un poulet contre le pare-brise d'un locomotif à une vitesse précise jusqu'à 1%. Alors ils ont fait le premier test et catastrophe, le pare-brise était complètement cassé, le locomotif à l'intérieur était complètement cassé. Ils ont dû tout recommencer le travail, 3 ans de travail. Alors après 3 ans de travail, ils ont fait le pare-brise 2 fois plus épais, d'une meilleure qualité de verre, mais même chose est arrivée la deuxième fois, tout a été détruit. Alors finalement, ils ont envoyé un email aux États-Unis pour demander des conseils. Et le conseil est venu qu'il faut décongeler le poulet. Ah voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que comme ça, vous n'aurez pas plus de plaisanterie. Alors, si je pousse comme voilà, ça marche même. Donc, le chrétien peut-il être neutre au laboratoire? Et ce matin, c'était des questions théoriques, philosophiques, si la science peut être neutre par rapport à la foi religieuse. Mais maintenant, c'est la question inverse, si la religion est neutre. Oh pardon, aussi ce matin, un peu la question inverse, si la religion est neutre par rapport à la science. Mais cet après-midi, je veux mettre beaucoup plus l'accent sur le vécu. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive au labo le matin? Est-ce que le chrétien peut être neutre au labo? Oh oui, il y a même un point rouge. Est-ce qu'il doit être différent? Est-ce qu'il doit être comme tout le monde? Je sais qu'en France, il y a un peu l'idée, surtout en France, dans d'autres pays francophones aussi, que la religion est quelque chose de très, très, très privé. Il ne faut pas en parler. Alors, est-ce qu'il faut prendre cette approche et être juste comme tout le monde? Alors, c'est clair que pendant le 16e, 17e siècle, la foi chrétienne a une énorme importance dans le développement de la science. Au Dieu capricieux des Grecs et des Romains, le christianisme a proposé un Dieu fidèle et fiable. Et si on croit que Dieu est fiable, il est un peu plus probable qu'on va chercher des lois scientifiques. Face à l'animisme et au panthéisme qui enseigne qu'il faut adorer la nature, le christianisme dit qu'il faut, le christianisme et l'islam et le judaïsme aussi disent qu'il ne faut adorer que Dieu, et qu'il faut gérer la nature, donc il faut l'étudier, la comprendre. Face à une mythologie enseignant une conception cyclique de l'histoire, contrôlée par les étoiles, et au-delà de la portée de l'homme, la tradition judéo-chrétienne enseigne une conception linéaire de l'histoire, dont les causes se trouvent sur la terre et doivent être capables d'être étudiées. Face à une religiosité qui enseignait parfois que la seule profession digne était celle d'un prêtre, Calvin, au moins, a dit que tout travail peut être digne si on le fait pour la gloire de Dieu. Donc, il n'y a pas de doute que dans le 16e, 16e et 17e siècle, la foi chrétienne avait une influence sur la manière de réfléchir et de se comporter des chrétiens. Mais le problème est qu'aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup moins clair. Parce que tout le monde, comme Lydia a dit ce matin, les non-chrétiens, les athées, acceptent certaines présuppositions chrétiennes, même s'ils ne se rendent pas compte. Alors, comment est-ce que, dans cette situation actuelle, quelle différence est-ce que ça va être faire pour être un chrétien? Et certains scientifiques, me disent qu'ils témoignent par leur engagement pour la science et par l'excellence de leur travail. Alors, si on accepte qu'il faut faire tout dans un esprit de service à Dieu pour sa gloire, je pense que ça peut être vrai. Mais en pratique, je trouve que c'est pas aussi évident que ça, parce que franchement, parmi mes collègues non chrétiens, il y a beaucoup de scientifiques excellents, et même si je fais ce que je peux, même si je prends au sérieux mon travail, Je ne pense pas qu'ils vont tous me regarder et dire, voilà, je veux croire en Jésus parce que je vois que Peter fait de tellement bon travail. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Alors, en ce cas, est-ce que le chrétien doit être neutre au labo? Surtout en France où le sécularisme est particulièrement rigoureux. Est-ce qu'on va être des combattants pour le Christ, à la maison, à l'église, dans le train, en vacances, mais au travail rigoureusement neutre, exactement comme les autres bons scientifiques? Je n'y crois pas. Donc j'ai aimé la citation de Sylvain ce matin, de C.S. Lewis, mais en fait, C.S. Lewis l'a pris de la Bible, hein, que le monde entier est sous l'emprise du diable. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et comme Sylvain dit, Dieu réclame chaque mètre carré de cet univers. Donc, si on est soldat du Christ, je ne vois guère qu'on puisse être neutre. Mais c'est quand même un problème parce que d'une part, je crois qu'on ne peut pas être neutre, mais d'autre part, c'est pas aussi clair que ça comment on peut en pratique être non neutre. Alors, je vais parler de mon expérience personnelle et je ne dis pas que ce qui est valable pour moi est valable pour vous. Chacun a une situation différente. Mais j'espère qu'au moins ce que je dis peut stimuler la discussion dans les groupes après. Et peut-être même si ma situation n'est pas la vôtre, ça peut stimuler à une réflexion. D'abord, un principe fondamental, ma motivation intérieure. Si ma vie est consacrée à Dieu, et si je suis convaincu qu'il me veut dans la science, cela fait déjà une grande différence. Si je suis convaincu qu'il ne me veut pas dans la science, alors peut-être mieux ne pas être dans la science. Hein. Mais s'il me veut dans la science, alors en ce cas, je suis en train de travailler pour lui, même si le travail que je fais ressemble un peu au travail des autres. Toute ma vie doit être vécue comme une adoration à lui, y compris ma science. Et franchement, parfois je l'oublie, surtout dans le monde très compétitif de la science, je suis en danger d'essayer d'établir le royaume de Peter. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Mais si je suis vraiment consacré au royaume de Dieu, alors en ce cas, cette vie consacrée à Dieu et vécue dans la science peut être une partie de mon adoration à Dieu. Aussi la prière. Je pense qu'on peut prier pour tout. Quand j'arrive au labo le matin, sauf quand j'ai un cours à 8h le matin, je prends un moment de prière et de lecture de la Bible. Et je prie pour absolument tout. Je regarde dans mon agenda, je regarde tout ce que je vais faire, je réfléchis à tous les problèmes. Je prie pour tout ce que je vais faire ce jour et peut-être les prochains jours. Et je crois qu'on peut même prier pour les expériences. Alors vous pouvez dire, non mais on ne peut pas prier pour les expériences parce que qu'est-ce qu'on va faire? Chaque fois qu'on écrit un article, on dit, Seigneur, s'il te plaît, je veux que cet article soit publié dans Nature. Et en ce cas, les chrétiens ne vont publier que des articles dans Nature. Et c'est pas vrai. Je crois que nous pouvons prier pour quelque chose si nous croyons que nous prions selon la volonté de Dieu. Et moi, je n'ai pas l'impression que chaque article que j'écris doit être publié dans Nature. Je crois pas que c'est la volonté de Dieu. Mais, quand même, parfois, j'ai eu ce que je considère des réponses à la prière qui me semblent très frappantes, et vraiment beaucoup. Je donne juste quelques exemples. Une fois, il y a longtemps, quand j'étais à Oxford, nous faisions des expériences où on enregistrait les cerveaux des moutons. Alors, pourquoi les moutons, c'est une longue histoire, mais c'était quand même compliqué. Il fallait beaucoup de temps pour préparer l'animal, on mettait l'électrode, et on fait beaucoup de travail, on voulait aussi optimiser l'utilisation de l'animal, donc on travaillait pour 24 heures, voire même 30 heures. Alors j'ai proposé que, moi je n'aime pas me lever le matin, alors j'ai proposé que mon chef et un autre collaborateur fassent la première partie du travail, ils préparent l'animal, et moi j'arrive gentiment vers 2 heures l'après-midi, mais après cela, c'est moi qui resterai debout toute la nuit. Et les prochaines heures du lendemain, donc j'allais quand même aussi faire un travail. Mais je me suis réveillé le matin vers 10h et je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit, je vais prier pour cette expérience. Et j'ai mis beaucoup de temps, je ne sais pas combien. J'ai dit beaucoup de temps, peut-être une demi-heure, je ne sais pas, prier pour cette expérience électrophysiologique. Ce que je n'ai pas fait d'habitude, hein, peut-être que j'aurais dû, mais je n'ai pas fait d'habitude. Mais cette fois-ci, quand j'ai prié une demi-heure, c'était le plus grand succès. On a résolu tous les problèmes qu'on voulait résoudre. On a pu publier notre article, même si ce n'était pas donné. Donc c'était juste un exemple. Ou je donne un autre exemple. J'avais un doctorant qui, exceptionnellement, était un chrétien évangélique. Il était un bon doctorant, il réfléchissait beaucoup, mais son travail est allé un peu lentement, et parce qu'il voulait aussi continuer son carrière de médecin, il est parti quand le travail n'était pas vraiment terminé. Et c'était un peu difficile à publier. Alors, nous avons envoyé un journal, refusé. Envoyé un deuxième journal, refusé. Envoyé un troisième journal, refusé, avec des critiques extrêmement dures. Alors, je suis venu à la maison le soir, et j'ai commencé à prier à ce propos. Et j'ai dit à Dieu, mais il a vraiment beaucoup travaillé. Il a quand même fait un bon travail. Les données qu'il a sont valables, même si les expériences ne sont pas tout à fait complétées. Et j'ai eu la conviction que je devais prier que cet article soit tout de suite publié. Alors le lendemain matin, donc j'ai prié ça avec foi. Le lendemain matin, je suis arrivé au travail. J'ai écrit une lettre un peu critique contre les arbitres. J'ai pour expliquer qu'ils ne comprenaient rien de la statistique, etc., ce qui était vrai. Et j'ai envoyé mon email, et tout de suite de retour, oui, je suis d'accord, l'article est accepté. Alors, je ne dis pas que ça se fait chaque fois, mais dans ce cas précis, j'avais des convictions qu'il fallait prier. Et Dieu a répondu. Et ce n'est pas les seuls exemples, hein. Il y avait beaucoup d'exemples. Je crois qu'on peut prier pour les expériences. Mais on peut prier aussi pour les problèmes administratifs. J'ai en général un certain nombre de subsides qui viennent de différentes sources et c'est un peu difficile de jongler l'argent. On a des collaborateurs payés par des différents subsides, mais on ne sait jamais si le prochain subside va réussir ou non. Et parfois, en plus de ça, je ne fais pas très bien les calculs des finances. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je suis désolé, hein, j'apprécie beaucoup de ton travail, mais malheureusement je dois te licencier parce que je n'ai plus d'argent. Est-ce que c'est comme ça que doit agir le chrétien? Alors je crois que non. Alors, quand j'ai eu des problèmes, je prie beaucoup, et Dieu répond toujours. J'ai jamais dû licencier quelqu'un à cause de ses problèmes financiers. Il y avait aussi des problèmes humains. Par exemple, un collègue qui crée des conflits, j'ai prié pour ça. Et je voulais mentionner un cas où il y avait une partie de mon travail a été d'enseigner l'anatomie aux étudiants, mais aussi enseigner aux jeunes assistants qui enseignent l'anatomie. Donc j'étais censé être le grand anatomiste qui enseigne tout le monde. Et c'était un peu difficile parce que je ne suis pas vraiment un anatomiste, je suis neurobiologiste avec une formation d'ingénieur. J'étais pas très fort. Et les séances où je devais enseigner aux enseignants, je n'étais pas bon. Et ces enseignants voyaient que je n'étais pas bon. Ils n'étaient pas contents. Il y a surtout une femme qui était agressive envers moi, avec une certaine raison. Elle m'a dit, tu ne m'enseignes rien du tout. Le fait est qu'elle savait déjà beaucoup de choses, hein, et moi j'avais de la peine. Alors, avant la prochaine séance d'enseigner aux enseignants, au lieu de mettre le temps pour réviser et étudier, j'ai mis le temps pour prier. Et quand je suis arrivé dans la salle de dissection pour cet enseignement, ça semblait aller mieux. Et à la fin, elle dit, oh, merci Peter, tu m'as appris tellement de choses, c'était super, j'apprécie beaucoup. Et depuis ce moment, quand elle me voyait dans le couloir, toujours un grand sourire. Alors, ces choses sont, à mon avis, des réponses à la prière. On peut prier pour son travail. Ce n'est pas qu'on va résoudre tous les problèmes comme ça, balayer sans aucune difficulté, mais Dieu répond vraiment à nos prières, même au labo. Je crois qu'il faut aussi confesser le Christ, même au labo. Alors je sais que ça peut être difficile. Et je ne dis pas qu'il faut faire n'importe comment, mais au moins il ne faut pas cacher notre foi, il ne faut pas l'imposer non plus. Mais Paul écrit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il a dit aux pharisiens que leur religion doit être secrète, parce qu'ils voulaient dire, moi je suis quelqu'un d'extraordinaire, je donne tout mon argent aux pauvres, etc. Donc, les bonnes œuvres doivent être faites dans la discrétion, mais confesser le Christ, c'est une chose publique. Jésus dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Alors, je ne dis pas qu'il faut juste arriver au labo et commencer à distribuer les évangiles n'importe comment. Mais les occasions se présentent. Je m'appelle, de temps en temps, on fait des soirées avec mon groupe. On faisait une fois une soirée fondue. Et j'ai fait une remarque un peu bizarre, j'ai dit, je crois que c'est immoral de croire quelque chose sans avoir une raison d'y croire. Il y avait une doctorante française d'ailleurs, qui m'a regardé, il avait un peu de colère dans son visage. Elle a dit, quoi, tu dis ça, et toi tu crois en Dieu? Alors, au moins ça a lancé une conversation qui était intéressante, et de temps en temps il y a des possibilités de discuter. Parfois, je cite un autre exemple, parfois c'est au repas, hein. Nous, je mange dans le cafétéria de temps en temps, et une fois il y avait une postdoc qui était en face de moi, et elle a dit, ce que je n'aime pas avec nos dissections dans la salle de dissection, c'est que ça me rappelle la mort, ça me rappelle que tout ce que j'ai appris va être détruit quand je serai mort. Et sans vraiment réfléchir, j'ai dit, oh, je sais pas, moi je me réjouis du ciel. Alors son visage est devenu rouge, elle avait de la peine à parler, et finalement elle a réussi à sortir des mots, moi j'ai eu deux avortements. Alors ensuite, on discute, et à un certain moment, il disait, moi, j'ai abandonné la foi, j'étais chrétienne, catholique, engagée comme fille, mais j'ai abandonné parce que parce que la science contredit la foi. Alors, mais quand j'ai parlé de réponse à la prière, elle a dit, oui, mais Dieu répondait aussi à mes prières, mais Dieu n'est pas content avec moi maintenant. Alors, c'était tout un chemin. Mais quelques années plus tard, deux ans plus tard, elle m'a dit, je crois que les différents problèmes que j'ai eus dans la vie, c'était utilisé par Dieu pour me ramener à lui. Donc, il faut être éveillé de temps en temps, pas chaque jour. Hein. J'ai toute une carrière derrière moi. Hein. Je ne dis pas que ces choses arrivent chaque jour. Mais de temps en temps, il y a des occasions qui se présentent. Maintenant, depuis un certain temps, j'ai eu l'impression que c'est bon que les étudiants sachent que quelques-uns des professeurs sont chrétiens. Parce qu'il y a un peu, genre, on ne parle jamais de sa foi, hein. Ils ont l'impression que les professeurs sont des biochimistes, des électrophysiologistes, mais qu'ils ne réfléchissent pas aux choses de la foi. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour que les étudiants sachent que je suis chrétien? Alors j'ai lu un livre américain, pas un scientifique chrétien américain, qui a dit qu'au début de son premier cours de l'année, il dit aux étudiants, alors moi je m'appelle tel et tel, et je suis marié, nous avons un certain nombre d'enfants, et je suis chrétien. Et je me suis dit, on ne peut pas faire ça à Lausanne, impossible. Mais j'ai commencé à réfléchir, et j'ai dit, mais peut-être on peut. Alors, mon premier cours de l'année, donc, il y a certains groupes qui sont assez grands, les médecins de première année, il y avait 400. J'ai dit, voilà, je suis anglais, j'en suis depuis 30 ans, je suis marié, nous avons deux filles, et je suis chrétien. Ils ont tous ri. Mais c'était pas méchant, mais c'était un peu comme si. Et moi, j'aime beaucoup porter des sous-vêtements roses ou quelque chose comme ça. On est dans une société tolérante, oui, on peut être chrétien, c'est ok, mais quand même un peu bizarre. Mais à la fin du cours, ils ont tous applaudi. Et j'ai eu l'impression que, quand même, ils ont vu ça positivement, même s'ils ont trouvé que c'était un peu bizarre. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, parce que je crois que ça dépend de la situation, et j'ai un peu l'impression que c'est un peu plus accepté d'un vieux prof qui il vient de notre époque, hein, que je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais peut-être pour certains, c'est possible de faire comme ça. Je pense que pour un jeune, c'est plus moins accepté de parler de sa vie privée dans un cours que pour un plus vieux. Maintenant, je voudrais dire un peu sur le témoignage au labo. Et je voudrais discuter plusieurs choses. On est témoin tout le temps, hein, partout dans notre manière de vivre. Et voici le sujet que je voudrais traiter. D'abord, la qualité de mes relations. Nous vivons dans une ambiance très critique. Et je crois que c'est normal. Dans la science, on ne peut pas accepter de la mauvaise science. Et s'il y a quelqu'un qui est en train de faire de la mauvaise science, c'est normal qu'il y ait une certaine ambiance critique. Mais quand même, ça peut être excessif, une sorte d'hyper-compétitivité. Et pour le chrétien, il me semble qu'il y a un autre proche amour. Amour dans le sens de agapé. Alors, mes collègues, si mon collègue publie un article dans Nature, lui et pas moi, quelle est mon attitude? Est-ce que je suis content pour lui? Est-ce que je lui dis, oh, c'est super, je suis vraiment content que tu as publié un article dans Nature, ou est-ce que je suis jaloux parce que finalement moi j'aurais voulu le faire? Il me semble que les gens sont sensibles à cela. Et l'amour du chrétien peut jouer un rôle dans cette ambiance d'hyper-compétitivité. Malgré ce que j'ai dit avant, j'ai dit que c'est difficile d'être témoin par son engagement scientifique, parce que finalement, au moins, dans beaucoup de milieux scientifiques, tout le monde est très engagé, tout le monde fait de la bonne recherche, mais malgré cela, c'est quand même un bon témoignage d'avoir une passion réelle pour la science. Au moins, si on est un mauvais scientifique, si on s'enfile, si on part à 5 heures de l'après-midi, si on n'est pas vraiment motivé par la science, c'est clair que ça ne va pas aider son témoignage. Témoin par mon attitude envers mon équipe. Qu'est-ce qu'un doctorant voit et pense important? Est-ce que c'est la chose qui est importante pour un doctorant est que je sois un génie? Est-ce que la chose importante pour un doctorant est que j'ai de bonnes relations avec mon épouse? Non, ce qui est important pour un doctorant est mon attitude envers lui ou envers elle. Est-ce que pour moi, un doctorant est surtout un outil pour avancer ma propre carrière, ou est-ce que je cherche sincèrement son bien à lui? Est-ce que j'ai cet amour agapé pour lui? Et à mon avis, les doctorants sont très 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 sensibles à ça. Comme un doctorant, quand nous publions un article ensemble, c'est accepté. Est-ce que je dis, est-ce que ma pensée intérieure est, ah voilà, encore une chose pour avancer ma carrière? Ou est-ce que je pense au fond de moi-même, ah c'est super, quelque chose pour avancer sa carrière lui, pour valider ce bon travail qu'il a fait? Si je suis vraiment habité par le Christ, j'aurai ce désir du succès des membres de mon équipe. Maintenant, le respect pour la compétence des membres de l'équipe. Franchement, les membres de mon équipe ne pensent pas « Oh, c'est merveilleux d'être dans l'équipe de Peter parce qu'il est un génie. Ses idées sont tellement bonnes. » Mais ils pensent que c'est bien d'être dans l'équipe de Peter parce que nous avons de bonnes idées, nous sommes de bons chercheurs et lui, il nous encourage et il nous aide. Alors, il me semble que c'est très important de d'avoir un grand respect pour la compétence des membres de l'équipe et ne pas se considérer supérieur, seulement mes idées sont les bonnes. Témoin par ma motivation. Donc j'ai déjà parlé de compétition, oui, compétition avec respect, un réel plaisir à la réussite des collègues, une certaine humilité. Les gens, de toute façon, ne vont pas penser que je suis un génie. Alors, je pourrais au moins avoir l'humilité de le penser moi aussi. Et il y a le danger de l'idolâtrie, que je n'avais pas compris au début. Une fois, j'ai dit à un ami chrétien, alors, je crois qu'une barrière, pour la raison de beaucoup de mes collègues ne veulent pas s'intéresser à la foi chrétienne, c'est tout simplement qui sont tellement engagés dans la science, ils travaillent 60, 70, même 80 heures par semaine, et ils n'ont pas le temps pour réfléchir à la foi chrétienne. Il a dit, ah oui, l'idolâtrie. Je crois qu'il faut être très motivé dans sa science, mais il y a un danger que ça devienne une idolâtrie. Et franchement, j'avais un chef qui s'est suicidé parce qu'il... Il faisait très bien, mais ne faisait pas assez bien selon ses critères. Évitons l'idolâtrie. Notre recherche est importante, mais finalement, quand j'arrive devant Dieu, au dernier jugement, la question qu'il va me demander, c'est pas premièrement, est-ce que tu as fait de bonnes recherches? Sa première question, c'est est-ce que tu as vécu avec amour, en voulant vraiment me servir? Alors, un témoignage explicite. C'est pas très facile, mais je trouve que de temps en temps, il y a des moments qui se présentent. J'ai eu l'occasion de donner quelques conférences sur le cerveau, et par exemple des questions de est-ce que le cerveau est une machine, dans les contextes chrétiens. Par exemple, le Faraday Institute, même une réunion à Vaucluse, etc. J'ai pu donner quelques conférences. Alors, j'ai dit à mes collègues au travail, oh, j'ai donné cette conférence, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ils disent oui, pourquoi pas. Alors je donne un petit séminaire, pas très officiel, pour une quinzaine, une vingtaine de personnes, où en fait, je parle de beaucoup de choses, de la foi chrétienne, même la nouvelle naissance, etc. Et ils acceptent. Maintenant, je ne dis pas qu'ils accepteraient dans toute situation. Je ne dis pas qu'il accepterait si j'avais 30 ans. C'est quelque chose que je ne comprends pas tout à fait, mais quand on est un peu plus de 60 ans, c'est plus accepté que si on est plus jeune. Mais au moins, dans cette situation, ça a été accepté. Alors, évidemment, dans son temps libre, on aura des occasions, j'espère, pour parler de sa foi, pour discuter. Ça, c'est seulement naturel. Oui, j'ai mentionné cette occasion avec la postdoc qui discutait la mort, etc. Une chose que j'ai fait était de donner à tous les académiques de mon équipe, j'ai donné un cadeau de Noël, bien emballé en papier, cadeau, etc., le livre de Francis Collins, The God Gene. Hein. Vous savez, ce livre de Francis Collins qui était le chef du projet du génome humain, où il parle dans son livre, il parle un peu de la génétique, de l'évolution. Il parle aussi de sa propre conversion au Christ et d'autres choses assez personnelles. Alors j'ai donné ce livre à tous ces, au moins à 4 membres de mon équipe. Ils étaient reconnaissants, merci beaucoup Pija, etc. J'ai pas eu beaucoup de feedback par la suite, mais une fois j'étais ensuite en train de causer avec une doctorante, la même qui était fâchée quand je disais qu'il ne faut pas croire à des choses sans raison. Elle a dit, ah oui, il a dit quelqu'un qui était un visiteur, c'est très intéressant dans le labo de Peter, hein, parce qu'actuellement Peter essaie de nous convertir tous au christianisme. Oh. Mais c'était pas trop grave. Voilà, elle dit comme ça, mais c'était pas trop grave. Donc, on peut avoir des feedbacks, pas entièrement ce qu'on voulait, mais je crois qu'il faut quand même oser un petit peu. Alors, il se peut aussi qu'on ait l'occasion de parler avec des chrétiens. Et ça, c'est une chose merveilleuse. Parfois, il y a des doctorants chrétiens qui viennent me parler. Alors là, c'est une occasion. Cette fois-là, on n'a vraiment aucune limitation, on peut parler de sa foi autant qu'on veut. Donc, on peut prier avec le doctorant ou le postdoc. Ils sont en général contents de prier. Il faut faire attention, il y a ceux qui viennent d'une tradition chrétienne où ils sont moins à l'aise, mais et parfois on a une communication merveilleuse. Et une fois qu'il y avait un doctorant chrétien qui est venu me parler, il n'était pas de mon équipe, hein, il n'était même pas de la même université, mais il est venu me parler. Il a dit, oh, mais je cherche du travail, j'ai beaucoup de problèmes, parce que je suis marié, et mon épouse doit rester ici en Suisse, et mais les seules possibilités de travail, c'est aux États-Unis, et je crois que de toute façon, je pourrais trouver un travail vraiment dans le domaine que je veux. Donc j'ai pris un moment avec lui, et peut-être j'étais un peu gonflé, mais donc il était un bon étudiant, hein, et je voyais aussi qu'il aimait vraiment Dieu. Alors j'étais un peu gonflé, et j'ai dit, mais je crois qu'il faut décider ce que toi tu crois que Dieu veut pour toi, et il faut demander ça, et Dieu va te le donner. Alors il a dit, oh mais moi je crois que Dieu veut que j'aie un travail ici à Lausanne, dans un peu de production des appareils pour la médecine en utilisant ma connaissance d'ingénieur. Alors, j'ai dit, tu crois vraiment que c'est ça que Dieu veut pour toi? Il a dit oui. Alors j'ai dit, alors tu pries pour ça et tu verras. Et trois mois plus tard, j'ai un merveilleux email où il a dit, selon ce que je me rappelle de notre conversation, Tu as dit qu'il faut mettre sa confiance en Dieu et demander pour ce que j'avais vraiment l'impression que Dieu voulait pour moi. Et c'est passé comme ça. Je viens de signer un contrat pour exactement le travail que je voulais, exactement le moment où il me fallait. Alors, on a des occasions où nous voyons que Dieu répond à la prière et on peut partager avec les gens dans des situations très agréables. Mais je crois qu'il faut aussi réfléchir que parfois, il peut y avoir aussi des tensions entre l'engagement chrétien et l'engagement scientifique. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de tensions, mais si on est engagé dans l'Église, si on veut être un bon père ou mère de famille, si on ne peut pas tout faire, on ne peut pas travailler 70-80 heures pour son travail et tout le reste, il y a une tension. Alors là, je n'ai pas beaucoup de conseil, je crois qu'on pourrait le discuter par la suite, mais on peut prier pour voir avec Dieu comment Dieu veut que nous partagions notre temps. Alors, mes conclusions, même au labo, je suis serviteur de Dieu, donc je ne suis pas neutre. Ma non-neutralité se manifestera dans ma motivation, toute ma vie une adoration pour Dieu, dans la prière. Je peux prier pour tout. Je peux remercier Dieu pour tout. En confessant le Christ quand l'occasion se présente. Et des témoignages à multiples aspects. Merci.